au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Ben nous sommes jeudi, c'est le 11 septembre. Quelle magnifique journée. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question d'Éric Duhaime qui voit d'un bon œil l'arrivée de Bernard Drainville à l'environnement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On doit se poser des questions. Mathieu Lessard sera avec nous, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, qui aura l'occasion de commenter le remaniement ministériel au niveau de l'éducation. Évelyne Chagnon, directrice générale du théâtre Hector Charland, va nous parler d'une année record en matière d'assistance. Patrick Bonin, député du Bloc québécois dans Repentigny, avec lui sera question des grands chantiers du gouvernement Carney. Mais tout d'abord, le remaniement ministériel effectué hier par François Legault a fait encore réagir. François Morin, on a discuté un peu plus tôt avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger, pas tant sur le jeu de la chaise musicale là, des ministres et députés là, que sur le message que veut passer le premier ministre Legault.
C'est ce discours-là qui marque plus l'imaginaire, avec un virage clairement un peu plus à droite de la CAQ ici. Certains observateurs le soulignaient d'ailleurs ce matin là, dans les différents médias. Et avec une volonté d'un peu plus brasser la cage, brasser le système économique de la province, à un an des élections, c'est une grosse commande. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a quand même plusieurs personnes qui changent de portefeuille. On veut pouvoir donner des coups des franches à ces personnes-là, même si c'est souvent des changements latéraux, de pouvoir dire, ben maintenant, on avait une direction X, maintenant, on va dans une direction Y. Quand c'est les mêmes personnes au même portefeuille, c'est plus difficile d'expliquer des changements de direction. Quand c'est une nouvelle personne, le message peut mieux passer. La personne est moins prise avec des contradictions de ce qu'elle aurait pu avoir dit par le passé. Donc voilà, on veut changer la direction du gouvernement, on veut faire des gros changements d'ici la prochaine année pour espérer que comme ça, regagner finalement la faveur là, des Québécois, ou si on veut être bon joueur dans la perspective que François Legault lui-même a énoncé hier, pour pouvoir laisser son héritage finalement aux Québécois, pour que les Québécois, que le Québec aille mieux dans la vision de François Legault.
Et il y a une partie de ce message-là qui laisse entendre qu'il risque d'y avoir des affrontements parce que justement on veut faire le ménage, un discours qu'on a déjà entendu de réduire la taille de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait, au contraire.
C'est presque une mission impossible ici là que François Legault donne à ses ministres, c'est-à-dire, dans un premier temps, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des confrontations, c'est le ton qui était utilisé hier, que ça soit avec les syndicats, que ça soit dans le milieu de l'environnement dans lequel on veut couper les diverses mesures pour faciliter la vie finalement aux entreprises, que ça soit en économie justement où François Legault l'a dit qu'il veut changer drastiquement le système, ne veut plus fonctionner à l'intérieur de ce système économique-là. Donc, ça sonne de la confrontation au Conseil du Trésor avec Mme Duranceau qui va y être, qui l'a qualifié en ne voulant pas le faire, mais en le faisant quand même par le fait même de Cruella, donc le personnage de Disney. Donc, on voit là que, comme je le mentionnais, le premier ministre veut donner du courage à ses ministres pour qu'ils fassent d'action que ça brasse, et on sait quand que ça brasse, ça crée des insatisfactions. Et c'est d'autant plus vrai, et c'est pour ça que je parlais de mission presque impossible, alors qu'on est à un an des prochaines élections et que la CAQ est très impopulaire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dans la fonction publique et dans la population en général, ça va pas nécessairement passer comme une lettre à la poste. S'il y a des désaccords, puis on peut imaginer qu'il y en a, ben dans la fonction publique, ça se peut qu'on se dise, ben on va pas être hyper efficace, faire notre travail bien sûr, mais pas être hyper efficace parce que fort probablement que dans un an maximum, on aura des nouveaux patrons, des nouveaux ministres qui auront probablement une nouvelle vision, voire l'opposé de ce qu'on fait présentement. C'est moins motivant à se dépasser dans ce contexte-là. Et même chose pour la population qui va peut-être parfois être en désaccord avec des positions que le gouvernement va vouloir adopter là, dans la prochaine année, ben ça va être plus motivant là, d'aller me manifester, contester, faire des pétitions, faire des diverses actions pour démontrer l'insatisfaction vers le gouvernement, se disant, ben, de toute façon, ce gouvernement-là n'est pas là pour longtemps. Dans un an, ça va être un prochain gouvernement. Donc, on est loin d'une situation que le gouvernement peut mettre la population devant un fait accompli. Au contraire, le gouvernement n'a plus le gros bout du bâton présentement à cause de la très faible cote de popularité de la CAQ. On le rappelle, là, dans le dernier sondage, la CAQ est à 11%. Donc, ça risque d'être une année très difficile. Habituellement, ce genre de manœuvre-là, de dire, OK, on va tout changer, on fait ça en début de mandat, pas en fin de mandat, alors qu'on s'approche d'élection. Et même si François Legault a dit hier que pour lui, la popularité, c'est pas ça qui est important, considérant son âge, ses paroles, ben, c'est pas nécessairement vrai de tout le monde de son équipe, tant les ministres que les députés, qui voient ça et qui se disent, ben, dans un an, je risque de perdre mon travail. Ça se peut que les frustrations de la population aient plus d'impact chez eux, peut-être, que chez François Legault, mais certainement que ça risque d'avoir un impact, justement, auprès, là, au final, de ce gouvernement-là, de ce parti politique-là, puis qu'il risque d'avoir beaucoup de discussions solides, des discussions difficiles au sein du caucus qui acquiesce au courant de la prochaine année.
Si on regarde rapidement dans la région, il y a deux ministres qui sont touchés, qui changent de portefeuille. Il y a Caroline Proulx d'Ambertis et Pascal Diéry dans Repentigny. Est-ce qu'on parle de démotion?
On parle plus d'un brassage de cartes pour gérer autrement les dossiers. Pascal Diéry, donc, était à l'éducation supérieure, qui est maintenant à l'emploi. C'est peut-être même un peu mieux... un peu plus de visibilité ici, c'est certainement pas une démotion, même si elle a été très critiquée par les gens notamment par les syndicats dans le domaine là, de l'éducation supérieure, tant au niveau collégial qu'universitaire. Elle demeure par ailleurs là, la ministre là, de la région, justement, de la Naudière. Pour Mme Proulx, on est avec les aînés, on est ministre délégué de la Santé. Là aussi, il n'y a pas de démotion ici. En fait, dans ce gouvernement-là, dans ce remaniement-là, il y a peu de démotion en tant que tel. François Legault n'aime pas ça, on le sait depuis qu'il est premier ministre, de démettre des gens. C'est arrivé ici et là, mais c'est ce sont souvent des exceptions plus que la règle. Donc, dans la région, non, on ne perd pas de galon. On continue à avoir une voix au chapitre, évidemment avec un député en particulier qui amène très large dans la région, c'est-à-dire le premier ministre lui-même. Le plus gros coup de démotion, finalement, c'est la perte, d'un point de vue là, de représentation au Conseil du ministre, de l'ancien député de Terrebonne, là, Pierre Fitzgibbon, qui a annoncé sa démission, qui a démissionné il y a un certain temps, qui a été remplacé depuis par la députée là, de Péquis, Mme Gentil-Car. C'est plus à ce niveau-là que la région perd du poids au sein du Conseil des ministres. Pour les ministres qui sont là, ben on reste quand même avec des bonnes fonctions puis une bonne voix au chapitre.
Bon, ben voilà, c'était Mathieu Bélanger, notre analyste politique, avec qui François Morin a eu l'occasion de s'entretenir un petit peu plus tôt aujourd'hui là, sur ce remaniement ministériel. Il voit ça un peu plus comme un brassage de cartes, là, particulièrement pour ce qui est de nos députés de la région de la Naudière. Dans un moment avec nous, Patrick Bonin, le député du Bloc québécois dans Repentigny.
La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm est la seule coopérative funéraire dans la Naudière. Avec une approche profondément humaine, nous répondons aux demandes des membres et non-membres avec respect, entraide et écoute. Faites partie des nombreuses familles qui font confiance aux coopératives funéraires et bénéficiez de notre expertise de plus de 100 ans dans le domaine. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, c'est 5 points de service à travers 2 MRC. Contactez-nous au 450-886-3763 ou au 450-839-3450.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca, un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
Signal clair sur la Naudière. CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Le Waro Show revient pour une 4e édition à la Forêt Waro. Un spectacle unique au sommet du Mont des Conscrits avec le trio Lanaudois Garçons à marier. Rendez-vous au Belvédère pour un spectacle de musique traditionnelle haut en couleur. Réservez vos billets dès maintenant au parcregionaux/événements avec un S et laissez-vous emporter par la magie du Waro Show.
Le Waro Show avec garçons à marier, le samedi 13 septembre.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Zénon, Berthierville, Joliette, Terrebonne.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM, politique fédérale.
Il est 16h16, il y a le Bloc québécois qui va surveiller de près le gouvernement Carney, là, qui vient de publier une liste de ses grands chantiers. Le député du Bloc dans Repentigny, porte-parole en matière environnementale, Patrick Bonin, affirme qu'il n'y a rien de rassurant, et Pierre Jubinville a parlé avec lui un peu plus tôt.
Ben, évidemment, sans grande surprise, on est inquiet parce qu'on voit un gouvernement qui décide de se lancer et d'accélérer des projets, entre autres gaziers, projets d'exportation de gaz naturel liquéfié et de gazoduc qui viendrait avec aussi. Une ouverture évidente pour des projets éventuellement en lien avec le monde pétrolier. Une autorisation pour le port de contrecœur avec une crainte qu'on a qui est justifiée, que le gouvernement tasse les protections environnementales pour faire avancer rapidement des projets. Et pour nous, ben, c'est la condition, hein. On est tout à fait d'accord d'accélérer des projets. Par contre, pas n'importe quel projet, surtout pas pétrolier, gazier, et pas de n'importe quelle manière. Ce que propose le gouvernement, c'est de tasser les lois environnementales, d'empiéter par-dessus les compétences du Québec, de décider, même chose avec les Autochtones, de bâcler les processus démocratiques de participation du public, entre autres, voire de les écarter complètement. On voit, sous prétexte d'une crise commerciale et tarifaire, un gouvernement qui fait avancer son plan d'affaires à vitesse grand V, et c'est inquiétant.
Il n'y a pas de pipeline officiellement, mais il semble y avoir beaucoup de gaz.
Pas officiellement, en effet. Il faut comprendre que c'est une première liste de projets. Et là-dedans, oui, en effet, il y a un projet, méga projet, un projet majeur là, de gaz naturel liquéfié. Ça, c'est pour doubler l'exportation de gaz naturel sur la côte ouest. Et évidemment, ça viendrait avec un gazoduc supplémentaire, avec davantage de production de gaz. Pour ce qui est du pétrole en tant que tel, eh bien, de toute évidence, les investisseurs privés n'étaient pas encore prêts à annoncer leur projet, mais le gouvernement a clairement annoncé qu'il est favorable à davantage de pipelines. Il a même dit en chambre que nous allons construire des pipelines. Ils sont prêts à donner de l'argent aux pétrolières pour développer des infrastructures. Donc, pour nous, c'est juste une question de temps. On voit que l'Alberta pousse énormément et que le gouvernement, jusqu'à maintenant, est très favorable à l'Alberta, à commencer par la nomination à la tête du bureau des grands projets, ce bureau qui est au-dessus des lois là et qui est celui qui va faire la sélection des projets. Eh bien, le gouvernement a mis Dawn Farrell, c'est l'ancienne PDG du projet de pipeline de sable bitumineux Trans Mountain. Donc, le message est très clair. Le Canada est de retour dans le pétrole et gaz et M. Carney met la pédale au fond.
Et vous n'êtes pas rassuré, visiblement.
Ben non, parce que on l'a vu ce printemps, là, ils ont adopté sous baillon un projet de loi majeur qui donne des super pouvoirs au premier ministre. Et ça, ils l'ont fait avec l'appui des conservateurs. Donc, ils se sont collés sur les conservateurs pour adopter un projet de loi qui met en péril tout le cadre réglementaire et législatif qu'on a mis en place, que le Canada a mis en place au cours des dernières décennies. Donc, c'est probablement le plus gros recul d'un point de vue environnemental de l'histoire moderne de l'environnement et de l'environnement au niveau juridique, au niveau fédéral. Et là, ce qu'on voit de la part de M. Carney, c'est clairement une visite en Europe, par exemple, pour proposer davantage de projets de gaz. Donc, il se concentre sur des projets pour lesquels le Québec a aucun intérêt, alors que nous, on est basé sur des énergies renouvelables, où on est des leaders en électrification. On a besoin d'aide à ce niveau-là. Mais au contraire, le gouvernement fédéral, par exemple, n'a pas remis ses incitatifs pour l'achat de véhicules électriques, a décidé de reculer devant les manufacturiers ontariens en refusant de les forcer à produire et offrir davantage de véhicules électriques et de petits véhicules. Donc, c'est recul après recul d'un point de vue environnemental. Et ce n'est que le début, avec un gouvernement qui refuse même maintenant de confirmer qu'il va vouloir respecter ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on voit, c'est moins de mesures, moins de programmes, moins de financement, moins de réglementation et rien pour les remplacer. Donc, c'est en effet très inquiétant parce que ce n'est pas le grand leader climatique qu'on nous a présenté. Au contraire, c'est un gouvernement qui est extrêmement inquiétant d'un point de vue climatique.
C'est l'ouverture des travaux lundi prochain à la Chambre des communes. Parlez-nous du rôle que vous entendez jouer.
Le Bloc va être là, évidemment, pour défendre les intérêts des Québécois et Québécoises. On a trois grandes priorités. La première, évidemment, c'est dans le contexte économique, comment s'assurer que la réponse à la crise tarifaire et commerciale en raison de M. Trump, elle ne se fait pas aux dépens des Québécois et des entreprises du Québec, des PME aussi, donc s'assurer d'avoir des programmes d'aide aux employeurs, de s'assurer de revoir les politiques au niveau, entre autres, des travailleurs immigrants temporaires qui actuellement ont subi des changements et il y a des gens, des familles qui risquent de ne pas pouvoir rester au Québec alors que les entreprises en ont besoin. S'assurer que les secteurs économiques du Québec qui sont propres au Québec, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit la foresterie, l'agriculture, l'aluminium, l'aérospatial, reçoivent leur part du gâteau parce qu'actuellement, c'est plus les manufacturiers d'automobiles en Ontario, les pétrolières de l'Ouest qui reçoivent l'aide fédérale. Donc oui, avec un budget à venir aussi, s'assurer que le Québec a sa place. Et aussi d'un point de vue de protection de l'identité du Québec, avec s'assurer par exemple que le gouvernement fédéral qui est en cours avec l'argent des Québécois actuellement pour faire annuler la loi 21 sur la laïcité, donc que le Québec conserve son droit de choisir qu'est-ce qu'on veut comme société. Là, c'est majoritairement évidemment un appui au Québec à la laïcité et le gouvernement fédéral veut empiéter là-dessus. Et finalement, l'environnement, pour nous, on est très clair, la crise climatique n'a pas disparu. Oui, il faut accélérer certains projets économiques, mais pas le faire au détriment de l'environnement, pas le faire avec des reculs d'un point de vue climatique. Et le Québec est bien placé pour être un leader. Ça prend de l'aide de la part du fédéral et surtout pas de l'empiètement et plutôt dérouler le tapis rouge aux pétrolières comme on voit le gouvernement en train de le faire.
C'était le député du Bloc québécois dans la circonscription de Repentigny, Patrick Bonin, en vous rappelant que la rentrée parlementaire à Ottawa a lieu lundi de la semaine prochaine.
L'anneau d'IRPM. Culturel.
16h23, l'industrie des spectacles se porte bien, du moins dans le sud de la Naudière, chez Diffusion Hector Charland. On parle de l'année 2024-2025 comme d'une année record avec 143 000 spectateurs au théâtre Hector Charland, rien de moins, également au théâtre Alphonse Desjardins et au restaurant L'Ange Cornu de l'Assomption. Et notre collègue Régent Turgeon fait le point avec la directrice générale Evelyne Chagnon.
Ça va très bien. Ça a été la saison 2024-2025 a été une saison où on a atteint des résultats impressionnants. C'est une année record pour nous, évidemment, une année record en assistance, une année record en activité, le volume d'activité qu'on a présenté dans l'année. Puis on a terminé avec un bilan financier positif et toujours aussi de l'investissement dans des projets de développement. Pour nous, pour toute l'équipe et le conseil d'administration, c'est vraiment un résultat d'une belle année.
Vous m'avez allumé, vous avez parlé de chiffres d'assistance, de bilan financier. Allons-y pour les assistances. Et quand on parle d'assistance, ça vaut pour le théâtre Hector Charland, Alphonse Desjardins et L'Ange Cornu.
Exactement. C'est les trois lieux de diffusion qu'on a le privilège d'animer. On parle de 143 000 spectateurs pour tous les spectacles professionnels qu'on a présentés. C'est une hausse de 13 % pour nous, donc 16 000 personnes de plus que l'année dernière. C'est vraiment une année record pour nous.
Comment ça s'explique? Il y a un engouement là, des Lanaudois pour la culture puis les spectacles professionnels qu'on leur présente.
Il y a un engouement certain. On sent que le public est de retour puis cette vitalité-là, elle fait vraiment beaucoup de bien. Je crois que c'est un juste équilibre dans la programmation, qu'on a autant de chansons, d'humour, de danse, de théâtre. On a un festival de théâtre de création. On a beaucoup de spectacles de danse. Donc, on arrive à trouver des spectacles qui touchent les différents spectateurs. Puis vraiment, dans la région de la Naudière, on est choyé. En tant qu'organisme culturel, le public est au rendez-vous. Il visite différents lieux de diffusion, que ce soit à Joliette, Terrebonne, La Valtrie. On le sent, les spectateurs sont assidus, puis c'est très motivant pour toute l'équipe.
Est-ce qu'on est loin de la pandémie, là?
On est franchement loin de la pandémie. Okay. Puis nous, évidemment, on pense à des records parce qu'avant la pandémie, nous avions qu'une seule salle de spectacle, le théâtre Hector Charland ainsi que l'Ange Cornu. Post-pandémie, on a ouvert le théâtre Alphonse Desjardins et c'est vraiment un modèle de diffusion, un modèle d'affaires qui est basé sur les trois salles de spectacle. Donc, okay, évidemment, c'est des records versus avant la pandémie. Mais... Okay. On est dans une belle continuité depuis l'ouverture des lieux. Les salles sont toujours rayonnent davantage, le public est au rendez-vous et les artistes aussi. On réussit à accomplir notre mission avec succès.
Le prix des spectacles, moi, ça m'interpelle parce que est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un spectacle à Montréal pour la même qualité?
Je pense que ça faut nuancer quand on parle de prix de billets. Les prix, on travaille pour une grande accessibilité. Il y a des prix très similaires à ceux de Montréal, mais je pense quand même que de vivre la culture à proximité, de pouvoir bénéficier des installations à quelques pas de la maison, ben il y a une économie de temps, une économie d'énergie, puis probablement ultimement une économie aussi financière.
Le Théâtre Hector Salland vient de lancer sa programmation 25-26. Et là, Mme Chanon, il y en a pour tous les goûts. Danse, comédie, théâtre, des gros noms qui s'en viennent, là.
On a des gros noms qui s'en viennent, des Rock Voisines avec un spectacle anniversaire d'Hélène. On a Bruno Pelletier, David Goudreau. On a des artistes comme Damien Robitaille qui vont être de retour, Marianne Amadza, Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y en a vraiment, franchement, pour tous les goûts. Grand succès en théâtre, 12 hommes en colère qui va ouvrir la saison avec le prénom. Franchement, ça vaut la peine de faire un petit détour dans nos lieux.
Et là, programmation aussi prochaine du côté du Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny, le 15 septembre, mais vous ne pouvez pas trop vous avancer.
On garde des surprises quand même. Donc, lundi prochain, c'est le lancement de la programmation au Théâtre Alphonse Desjardins. C'est le genre de soirée où on propose plein de découvertes. L'idée, en fait, c'est de faire découvrir qui seront les nouveaux artistes dans la programmation. Il y a des gens connus, mais qui arrivent, qui font leur premier pas sur scène avec des spectacles d'humour, entre autres. Je donne quelques pistes quand même. Mais cette soirée-là, il y a des prestations, il y a des entrevues, il y a des partages de nos coups de cœur. Donc, l'équipe de programmation partage au public les incontournables de la saison. Puis franchement, c'est toujours des soirées où le public sort enchanté par les rencontres qu'ils ont faites, les découvertes. Et cette soirée est animée par nul autre que Brian O'Day, qui est fabuleux à l'animation. C'est notre deuxième année consécutive avec lui. Puis on est franchement bien accompagnés.
Ben, de très bonnes nouvelles en provenance donc de Diffusion Hector Charland. Ça va très, très bien. Année record pour 2024-2025 en matière d'assistance, 143 000 spectateurs.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La 40 Est pour Charles de Gaulle, un peu plus dense là, à partir de Bourget. Je regarde le secteur du tricentenaire. Là, c'est lourd. On est presque à l'arrêt, là, secteur du tricentenaire, et on reprend de la vitesse un peu passé le pont d'Étagement. Par contre, à signaler, juste à l'approche du boulevard Gouin, même début Charles de Gaulle, là, ça commence à ralentir. Véhicule en panne dans la voie de droite. La voie de droite, d'ailleurs, est bloquée dans le secteur. Pour la suite des choses, ça va bien pour traverser vers la rive nord. Repentigny, 40 Est, un peu dans le secteur du boulevard industriel. Pont Le Gardeur, c'est lourd, je vous dirais, depuis l'île Bourdon. Pour traverser vers Repentigny. Et finalement, pour la 25 Nord, danse à partir du boulevard Peyra, et ce jusqu'à la hauteur de la pesée routière du côté de Laval. Pour la suite des choses, ça va bien, secteur Terrebonne-Mascouche. Pont Sophie Masson, un peu dense à l'approche, traversée facile vers Terrebonne, et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, ça va très bien. Direction ouest, un peu dense depuis la montée des pionniers pour la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Marché Express Ultramar Saint-Félix. Dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, Marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour débuter la saison du crapaud, Musique à Bouche sera en spectacle le samedi 13 septembre à 20h. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
Oh ma dodo, oh ma dodo, oh ma belle grosse Donalda.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca. Un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croc, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
h 32, Pierre Jubinville est là pour livrer l'information. Tout d'abord, Pierre, on va parler de Mark Carney là, qui a présenté là, ses grands projets nationaux.
Oui, ça s'est fait aujourd'hui à Ottawa. C'est confirmé, l'expansion du port de Montréal à contre-cœur fait partie des 5 projets qui ont été retenus par le fédéral pour relancer l'économie. Le premier ministre Mark Carney voit grand avec ses projets d'envergure.
C'est dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis qu'Ottawa a sélectionné 5 projets d'intérêt nationaux visant à réduire la forte dépendance du Canada au marché américain. Et Mark Carney veut que ces projets avancent vite.
La grande contribution du gouvernement fédéral est d'accélérer l'approbation des projets.
La construction du terminal portuaire fait partie de ces projets. Le premier ministre souligne que tout le pays bénéficiera de ces nouvelles installations au Québec.
Ce projet permettra à nos entreprises d'exporter davantage vers de nouveaux marché.
Donc 5 projets pour le moment qui vont générer 60 milliards de dollars en activité économique et créer des dizaines de milliers d'emplois, selon Ottawa.
Nous allons nous donner les moyens de nos ambitions. Nous allons nous dépasser, rêver à nouveau.
Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Dans la même veine, il y a le Bloc québécois, Pierre, qui est inquiet, là.
Oui, le député bloquiste de Repentigny, Patrick Bonin, n'est pas du tout rassuré par les grands projets nationaux. Bien qu'aucun projet d'oléoduc ne soit prévu pour l'instant, il faudra rester vigilant, selon le critique, en matière d'environnement du Bloc.
On est inquiet parce qu'on voit un gouvernement qui décide de se lancer et d'accélérer des projets, entre autres gaziers, projets d'exportation des gaz naturels liquéfiés et de gazoducs qui viendraient avec aussi. Une ouverture évidente pour des projets éventuellement en lien avec le monde pétrolier. Une autorisation pour le port de contre-cœur avec une crainte qu'on a qui est justifiée, que le gouvernement tasse les protections environnementales pour faire avancer rapidement des projets.
Beaucoup de réactions, Pierre, maintenant, au lendemain de la présentation là, du nouveau Conseil des ministres.
Oui, on a choisi quelques-unes. Le milieu culturel de Lanaudière, d'abord, qui accueille favorablement le maintien en poste de Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture. Pour Évelyne Chagnon, qui est directrice générale de diffusion Hector Charland, le ministre est très à l'écoute du milieu.
Monsieur Lacombe, en fait, est très investi. On sent toute sa sensibilité, son écoute. Les derniers mois, pour nous, ça a été des avancements extraordinaires pour le milieu de la culture. Il y a eu du financement supplémentaire. Tous les acteurs culturels bénéficient de ces engagements-là, de ces investissements-là.
Et Yann Lafrenière qui affirme que sa double nomination, on pourrait dire, là, est quand même bien accueillie.
C'est lui-même qui le dit. Oui. Écoutez, il est un ancien policier du SPVM, ce qui susciterait, selon lui, l'approbation dans le milieu. M. Lafrenière conserve par ailleurs ses responsabilités auprès des Premières Nations.
Depuis l'annonce de mes nominations, j'ai eu beaucoup de messages. Je veux saluer les gens qui m'ont écrit, des policiers retraités, des pompiers, des gens qui ont fait le travail sur le terrain, qui lèvent la main en disant « Regarde, On sait que le temps est court, hein, parce que le mandat est quand même audacieux, on le sait. Mais on a des idées qu'il y a des choses qui préfèrent la différence. Puis j'ai le goût d'utiliser ce qu'on utilisait au SPVM, c'est-à-dire oser, risquer, agir.
J'ai l'impression que Yann Lafrenière parlait dans le casque du bonhomme carnaval.
À peu près, oui.
Voyez, à la table des préfets qui est heureuse pour sa part de la nomination de Pascal Derry à l'emploi et la solidarité sociale.
Oui, c'est ce que le maire de l'Assomption et préfet de la MRC du même nom a affirmé aujourd'hui. Par ailleurs, Québec solidaire craint que la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, ne devienne une ministre de l'austérité, à l'image de ce qu'on voit aux États-Unis.
Qu'est-ce que Mme Duranceau va faire? Je la mets en garde de devenir la ministre de l'austérité. Ça serait une catastrophe pour les Québécois et Québécoises, pour les enfants qui sont dans nos écoles, pour les patients qui sont dans notre système de santé. C'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui au Québec. C'est ça qui est important. C'est sur ça qu'on va la surveiller.
Il s'agit de la porte-parole de Québec solidaire, Hubert Gazal.
Et les groupes communautaires lancent leur grande campagne de mobilisation.
Oui, c'est la mobilisation de l'Action communautaire autonome dans la Naudière. Il y avait un gros pique-nique cet après-midi à Saint-Lin-Laurentide. Les groupes communautaires organiseront différentes activités pour se faire entendre à un an des prochaines élections. Ils entendent sensibiliser les élus lors des conseils municipaux. Et ils se sont donné rendez-vous dans un an, soit le 12 septembre, et ça sera à 3 semaines des élections générales.
Bien, c'est de prendre sa place, finalement, puis de se faire entendre. Tu sais, il y a différents moyens pour se faire voir, se faire entendre. Je pense que la campagne, cette année, mise beaucoup sur le fait de rejoindre la communauté, de rejoindre les citoyens, de faire comprendre qui on est, c'est quoi l'ACA, mais aussi de faire saisir aux gens qu'ils sont tous touchés. En fait, ils sont tous partie prenante, veut pas. Tu sais, on a mis des chiffres tantôt comme quoi qu'il y a quand même 100 000 individus dans la région qui vont avoir recours à des services d'un au cas dans une année, finalement.
C'est Alexandre Vanet de la CAP.
Et en terminant, le maire Michel Dupuis aura de l'opposition à Saint-Ambroise.
Oui, Éliane Neveu, conseillère municipale dans le district 5, va tenter de changer la façon de faire de la politique en se présentant à la mairie en novembre. Elle est native de Saint-Ambroise. Elle est convaincue d'être la bonne personne pour faire bouger les choses.
En fait, moi, ce que je veux faire, c'est d'être vraiment proche des gens, les écouter et être vraiment... je veux organiser des rencontres avec les citoyens. J'aimerais ça vraiment qu'ils puissent me rejoindre en tout temps, qu'on puisse partager ensemble et tout ça. C'est sûr que en tant qu'élu municipal, on a des responsabilités, on a aussi des obligations, n'est-ce pas? Par contre, je pense que c'est là que ça va être la différence, vraiment une toute autre approche, peut-être encore plus féminine.
Et l'entrevue complète avec Mme Neveu sera présentée dimanche dans La Naudière et compagnie.
Merci beaucoup, Pierre Jubainville. Il est 16h38.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est La Naudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ
99.1-88.9 PM, éducation.
Il y a le syndicat de l'enseignement du Lanaudière qui accueille la nomination de Sonia Lebel comme ministre de l'Éducation, comme étant un changement qui peut être que bénéfique, selon eux. Elle qui connaît, faut le dire, les enjeux des syndicats avec qui elle a négocié. Et un échange entre le collègue François Morin et le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard.
Effectivement, il faut se dire qu'après le changement de garde du ministre, le passage plutôt du ministre Drainville, on se trouve dans une situation où on ne peut qu'entrevoir d'un bon œil l'arrivée de Mme Lebel, là, qui connaît évidemment les différentes organisations syndicales, notamment suite à la dernière négociation collective. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est quand même Mme Lebel qui a imposé l'année dernière, là, à l'automne, le fameux gel d'embauche qui fait en sorte que, justement, là, il y a une quantité importante de personnel, non pas enseignants, mais de soutien aux professionnels qui ne sont pas remplacés, qui amènent des bris de service là, ou des ralentissements dans l'accès aux services. Fait qu'en arrivant à ce poste-là, elle sera confrontée à la dure réalité des décisions qu'elle a prises à l'époque.
Bon, je voudrais justement revenir un peu là-dessus, les décisions qui ont été prises au cours des dernières années, principalement par l'ancien ministre de l'Éducation. Elle doit composer également avec ça.
Ce qui s'est passé au courant notamment des deux dernières années, mais plus particulièrement lors de la dernière année scolaire, en imposition de multiples projets de loi par M. Drainville ou des règlements là un petit peu là que je pourrais qualifier de farfelus, sans réelle consultation puis sans assise avec les gens du terrain, ben, elle va être confrontée avec tout ça. Sauf qu'il faut comprendre, ensuite de ça, c'est quelle est la marge de manœuvre qu'aura Mme Lebel dans son nouveau rôle. Est-ce qu'elle ne sera qu'un simple relais du discours gouvernemental qu'on a entendu hier où on, finalement, c'est à droite tous et faisons tomber tous les contre-pouvoirs, ou si au contraire, elle aura la capacité de plaider pour un réseau qui, justement, a besoin là de prévisibilité puis de perspective. Puis en ce sens, bon, on s'inscrit toujours dans un syndicalisme de mode de solution. Puis les profs, on est comme ça. Il y a un problème, il y a 28 solutions. Fait qu'on va s'inscrire dans la même mouvance auprès de Mme Lebel. Reste à voir si elle prendra notre main tendue.
Ce qui ne me semble pas, M. Lessard, être de très bon augure pour les relations avec les différents syndicats dans le domaine de l'enseignement, c'est que la nouvelle présidente du Conseil du Trésor et députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau, a carrément le mandat d'y aller d'une cure minceur dans l'appareil gouvernemental.
Disons que la prochaine année, parce que la baguette magique de Cruella ne pourra se faire aller que très rapidement, là, dans la prochaine année, on va nécessairement être confronté à des problématiques de vision. Puis ces visions-là, hein, les Québécoises et les Québécois, là, dans le programme de la CAQ en 2022, là, c'était même pas là lorsqu'ils ont été élus par à peu près 40% de la population québécoise au niveau du vote populaire. Et ce faisant, c'est sûr que les contre-pouvoirs seront nécessaires. Puis les pressions qui seront mises sur les ministères amèneront nécessairement, malgré le chant des sirènes du gouvernement, des impacts dans les services. Puis en même temps, on parle d'efficacité. Mais dans le monde scolaire, comme dans le monde de la santé, donc dès qu'on est dans le système où on donne des soins aux gens, ben l'efficacité, là, ça prend des gens en haut qui vont s'assurer que les services sont octroyés aux bonnes personnes. Ça prend des gens qui évaluent des dossiers. Ben ces personnes-là, c'est pas de l'intelligence artificielle, là. Ça prend des humains derrière. Puis si on en a de moins en moins des humains derrière qui viennent s'assurer que tout est bien organisé, tout est bien dirigé. Puis là, vous comprenez que j'utilise le mot bien, mais on pourra toujours discuter là de la pertinence, des fois, de certaines décisions. Mais n'en demeure pas moins que si on enlève de ces personnes-là, ben ça va refouler ailleurs. Puis c'est ce qu'on vit déjà avec le gel d'embauche quand on parle d'efficacité. Ben, il y a des retours, puis il y a des dossiers qui traînent parce que les gens qui devaient les traiter, ces dossiers-là, sont absents. Puis au final, ben c'est du personnel enseignant qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Ce sont des élèves qui n'ont pas accès à des services. Ce sont des corps d'emploi qui sont en attente de recommandations pour soutenir tout le personnel dans les écoles. Fait qu'au final, là, on court après notre queue sans arrêt lorsqu'on décide, avec une idéologie, de dire ben on va s'en prendre, évidemment, à la bureaucratie sans réellement connaître ce dont on parle.
Ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que vous croyez que le gouvernement est toujours en mode confrontation.
Assurément, puis il l'a même clairement énoncé. Hein, sa camisole de force, là. Ben évidemment, il faut que tu apprennes à vivre avec des contre-pouvoirs. C'est ça, la démocratie. Puis pour paraphraser le premier ministre hier qui a dit que le monde avait changé, ben justement, si le monde a changé, c'est pas de revenir à des idées puis à des pratiques des années de Margaret Thatcher puis Ronald Reagan, hein, qu'on a déjà vécu à la fin des années 80 et début des années 90, où après ça, on a été dans l'obligation de se dire, ouais, on aurait peut-être dû faire autrement puis réinjecter de l'argent dans les services publics, à moins que, officiellement, ils nous le disent en mettant la main sur le cœur, qu'ils souhaitent privatiser l'État québécois. Mais c'est encore une fois, c'est pas pour ça que les Québécoises et les Québécois ont voté en 2022. Il ne reste qu'une année à ce gouvernement. Qu'ils se ressaisissent le plus rapidement possible et qu'ils décident de réellement travailler dans un système démocratique, c'est-à-dire avec notamment les contre-pouvoirs, les gens qui ne pensent pas comme lui.
C'était le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard, avec qui François Morin a parlé un petit peu plus tôt. Là, il est à 16h44. C'est là, dans les prochaines minutes, on retrouve Jacques Plante. On va parler de Dudu, Éric Duhem.
Les préarrangements funéraires font partie d'une bonne planification successorale. Prenez en main votre destin posthume avec la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm. Épargnez cette lourde tâche à vos proches. Soulagez-les de décisions difficiles en période de deuil. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, née de la fusion des coopératives funéraires de Saint-Jean-de-Mata et de Montcalm, vous accompagne dans cette démarche. Et ce, dans le respect de votre budget et de vos croyances. Toujours avec flexibilité et bienveillance, 5 points de service. 450-886-3763 et 450-839-3450. Cet été, vivez l'expérience La Cage du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon au bord du magnifique lac Masquinongé. Découvrez notre nouveau chef et son menu local savoureux, notre table d'hôte chaque soir et nos 4 assises festives du mercredi au vendredi avec spéciaux 2 pour 1. Nouveautés, barbecue sur le toit les fins de semaine ensoleillées et ouvert tous les dimanches soirs. Le dimanche midi, profitez d'un DJ sur le toit pour une ambiance festive et ensoleillée. Réservé au 450-271-8217 ou sur cagedulac.com. La Cage du Lac, bistrot, bar, terrasse, tout y est.
Le Waro Show revient pour une 4e édition à la Forêt Waro. Un spectacle unique au sommet du Mont des Conscrits avec le trio Lanaudois Garçon à marier. Rendez-vous au Belvédère pour un spectacle de musique traditionnelle haut en couleur. Réservez vos billets dès maintenant au Parc Régionaux /événements avec un S et laissez-vous emporter par la magie du Waro Show.
Le Waro Show avec Garçon à marier, le samedi 13 septembre.
Signal clair sur Lanaudière. CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Au concert du dimanche à CFNJ, Laurent Voulzy et Alain Souchon. Le concert du dimanche. Dimanche matin, 7h, à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Hey, bon jeudi Claude, bon jeudi tout le monde. Là, je suis persuadé que vous allez m'entendre beaucoup mieux.
Oui,
avec
oui,
le
oui.
Nouvel émetteur.
Avec la nouvelle antenne. Oui, c'est ça. Hein? Plus, encore plus de Jacques Plante dans vos oreilles.
Eh oui, c'est ça. J'ai pas besoin de parler.
Éric Duhaime, oui. Qui voit d'un bon œil l'arrivée de Bernard Drainville à l'environnement. Et c'est drôle parce que hier, tout le monde faisait des farces sur Drainville à l'environnement en disant, ben voyons, avec ce que Drainville a déjà laissé tomber concernant les GES.
Oui, c'est ça, pendant qu'il vendait le troisième lien, il avait dit, lâchez-moi avec les GES.
Oui, là, on dit, qu'est-ce que Drainville va faire? Qu'est-ce que Drainville a à voir avec l'environnement? Et Drainville a répondu, d'ailleurs, au journaliste, ben moi, l'environnement, c'est, ben, je suis né sur une terre, puis la nature, c'est beau, là. J'aime ça, la nature.
Ouais, c'est à peu près ça. On va s'occuper des grenouilles. Ouais. Mais après, on va le mettre un peu de côté, ici. Si on veut avancer certains projets, on sait ce que ça fait. Là, rappelez-vous juste, puis je ne veux pas faire une dissertation là-dessus, mais le BAP, hein, le Bureau en environnement, et le dossier de Norvolt, juste penser à ça. Là.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui donnait un point de presse aujourd'hui chez un concessionnaire automobile à Québec. Oui,
c'était bien marqué.
Oui. Et pour parler d'automobile, justement.
Tu sais, Claude, Duhaime, c'est un gars de radio. Hein?
Oui.
Les gars de radio, ben, les gens de radio, on est showman un peu. Hein? On aime ça.
Oui. Ça dépend desquels.
Ouais, c'est, non, mais
Duhaime, il aime ça. Oui,
ouais, mais on pourrait faire notre show d'auto aussi. À un moment donné, c'est un concessionnaire ou quelque chose comme ça. Je te rouvre la porte. Je trouve quand même que Duhaime, il se défend bien parce que c'est sondage Palace Data qui a été commandé d'ailleurs par les conservateurs. Et on parle d'une majorité de Québécois, quand même 63%, qui sont d'avis que ça revient à nous, les consommateurs, de décider si on veut acheter un véhicule à essence ou non, et que ça revient pas au gouvernement. Ça me rappelle la phrase célèbre qui disait « Il faut pas que le gouvernement vienne dans la chambre à coucher. »
Oui, il faut rappeler qu'en 2035, selon la Coalition Avenir Québec, ben on
pourrait plus acheter de véhicules à essence neuf,
usagés toujours, mais neuf. Alors, mais 2035, ça s'en vient quand même assez vite, c'est dans 10 ans, ça, là. Et puis, bon, 63% des Québécois qui sont en défaveur de tout ça, et puis le Parti québécois pourrait même devancer ça, là, à 2030.
Oui, c'est ça.
Dans 5 ans.
Et quand on regarde ce qui se passe actuellement du côté d'Ottawa, par rapport au secteur automobile, ça va peut-être faire son chemin tranquillement pas vite. Et je trouve que dans la Le point de presse de Duhem aujourd'hui, tu l'as mentionné, Claude, il a fait ça dans un concessionnaire automobile, alors ça marquait le pas. Mais c'est comme s'il tentait de récupérer la ritournelle qu'on vit actuellement du côté d'Ottawa. Je m'explique. On dit beaucoup que le gouvernement libéral de Mark Carney copie carrément les programmes du Parti conservateur.
Mm-hmm.
Tu me veux-tu vinaigre, là?
Oui, oui.
Hier, on
est à 100 milieux du gouvernement Trudeau, là.
Oui. Et là, par rapport, si on ramène ça à la dimension de l'Assemblée nationale à Québec, on disait que la CAQ prenait peut-être encore un virage un peu plus à droite.
Moi, je trouve que la CAQ commence à ressembler pas mal à ce qu'était la DQ à l'époque, là.
Alors, est-ce que Éric Duhaime veut dire, ben finalement, on va me voler encore mes idées?
Ouais.
Hein? C'est peut-être ça qu'il cherche à attirer.
Est-ce qu'il serait pas en train de courtiser Bernard Drinville parce que Bernard Drinville est en faveur, évidemment, d'un troisième lien? En faveur, en fait, pas mal des véhicules à essence, si on veut. On peut imaginer s'il y a le troisième lien.
Les deux vont ensemble.
Un va pas sans l'autre. Alors, si ça enchante Duhaime de voir Drinville arriver à l'environnement, est-ce qu'il serait pas en train de le courtiser pour l'amener au Parti conservateur?
Ben là, s'il fallait que Drinville décide de traverser la Chambre et s'en aller au Parti conservateur, là, je sais pas, mais moi, je change de... Change de paroisse, là. C'est incroyable.
Je sais qu'il y a du mécontentement à la CAQ. On le sait très bien présentement.
Oui.
Il y a du mécontentement. Alors, Duhem va certainement en profiter pour aller faire du maraudage.
C'est sûr, actuellement. Je lisais Maïté aussi, là, qui, dans son chef-lieu chez eux, celle qui a été tassée, là, avec son projet de loi 97, là, au niveau de la forêt et tout ça. Et elle l'a su le cœur, tu sais, elle l'a su le cœur elle aussi. Fait que évidemment, on en parlait mardi de l'autre. C'est sûr que le chef des conservateurs et le chef des libéraux au Québec lancent le ligne à pêche. Là,
s'il y a des gens
qui sont pas contents, on va essayer de faire du maraudage.
Pensez
ça, c'est évident.
Pensez aussi à Youri Chassin. Qui était député, qui est toujours député de Saint-Jérôme, qui est indépendant maintenant, qui avait été exclu, qui a claqué la porte de la coalition Avenir Québec. Est-ce que il serait peut-être tenté de faire le saut?
Je me souviens pas de la ligne, là, mais j'ai lu un petit commentaire, là, puis il y avait un commentaire sur le remaniement, puis les options que prennent de plus en plus, la tournure que prend de plus en plus le gouvernement de la CAQ, là, puis c'était pas très. Je me souviens pas, je peux pas le citer, là, mais c'était pas. Non, il va falloir suivre ça. Il va sûrement la poussière va retomber.
Mais
là.
Surveillez ça, je vous le dis. Éric Duhaime sera très, très, très actif cet automne.
Ben c'est de bonne guerre.
Oui.
C'est de bonne guerre.
Tout à fait.
Tu sais, lui, il a regardé les chiffres là, du dernier sondage, là. Il a le vent d'un voile.
Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Jacques.
Salut.
Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. Je souhaite de passer une excellente soirée. On vous amène dans un tout petit moment à Notre-Dame-des-Prairies pour la vie dans la Naudière. Nicolas Bellemare sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter son 5 à 7 trad. Nous, on est en congé demain. On se retrouve lundi pour une autre édition de la Naudière PM.